Ça y est, c'est la fin du livre de Bamidbar. Nous sommes à la sortie du désert et il y a une récapitulation des voyages et différentes stations des enfants d'Israël dans le désert, dans la paracha de Masé. Masé qui veut dire les voyages. Et pour sortir du désert, il faut être capable de récapituler. Et la Torah va nous donner une liste de 42 stations des enfants d'Israël depuis l'Égypte jusqu'au bord du Jourdain. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 42 lieux? Alors, Maïmonide nous dit que c'est pour renforcer la fiabilité du récit biblique. En effet, si on raconte que les enfants d'Israël ont traversé le désert, mais que dans le désert il n'y a rien, on leur dira « Mais où est le trajet? Par où êtes-vous passé ?» Ben voilà, nous avons ici une liste des 42 endroits où nous sommes passés. Alors on peut trouver effectivement dans cette liste des 42 stations beaucoup d'allusions à la marche de l'histoire en général. Ceux qui aiment les paraboles et les métaphores peuvent trouver dans la liste des noms énormément de matière à réflexion, mais nous n'allons pas le faire. Nous allons simplement nous arrêter sur le chiffre de 42. En effet, 42 station, ce n'est pas peu dire. Et c'est quoi exactement 42? Ben 42, pour ceux qui connaissent bien l'algèbre, c'est 6 multiplié par 7. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais on aurait pu diviser ça autrement, mais peu importe. Le chiffre 7 représente, de manière générale, dans la tradition d'Israël, le chiffre de la sainteté. Le septième jour, le Shabbat, et les 7 jours de fête, la septième année qui est sanctifié, etc. Donc le chiffre 7, traditionnellement, représente la sainteté, mais que représente le chiffre 6? Eh bien, le chiffre 6 représente le temps, c'est-à-dire le nombre de jours qui est nécessaire pour passer du commencement de la semaine à la fin de la semaine. Donc, quand on est dans le chiffre 6, traditionnellement, cela veut dire que l'on est en route. Et donc, le chiffre 6 correspond tout à fait à l'expérience des enfants d'Israël qui traversent le désert pendant les 40 années de l'exil. Et il y a un passage, quand on sort de l'exil, on passe du temps à l'espace, en fait de l'histoire à la géographie. C'est-à-dire on passe du moment de la sainteté du temps à la sainteté de l'espace. Comment cela va-t-il se traduire? Eh bien, c'est très simple, par la sanctification de 49 villes en Eretz Israël. Non pas 42, mais 49. Mais attention, comment ça se fait? 42 villes seront attribuées à la tribu de Lévi, et on va en rajouter encore 6, ça va faire 48, et on va rajouter encore une, ça va faire 49. Comment? D'abord, la tribu de Lévi, c'est la tribu qui est celle qui dirige le peuple d'Israël pendant le temps du désert. C'est la tribu vagabonde par excellence, par définition. Et donc, on va garder un peu de ce qui reste du souvenir de l'errance et du vagabondage. On va le garder dans les villes des Léviïm en Israël. Il y aura donc 42 villes des Lévites qui vont correspondre aux 42 stations du désert, ou les 42 voyages plus précisément. Mais on va rajouter encore 6 villes, qui sont des villes de refuge. C'est quoi la ville de refuge? C'est celle qui va accueillir l'assassin involontaire, qui risque la vengeance du sang de la famille de la personne tuée, et qui va donc se réfugier dans une des villes qui sont destinées à ceux qui n'ont pas réussi à préserver la vie de leur prochain. Et donc ça va nous donner 48, et il y a encore un lieu de refuge, c'est le haut de l'autel du temple de Jérusalem, ce qui va nous donner donc 49. Et c'est quoi 49? Eh bien 49 c'est 7 fois 7. 7 étant le chiffre de la sainteté, mais également le chiffre de l'espace. Et donc quand la Torah va nous parler de sainteté du temps, elle va dire 6 fois 7, 42. Et quand elle va parler de la sainteté de l'espace, elle va dire 7 fois 7, c'est-à-dire 49. C'est un peu comme si le désert était implanté en Eretz Israël. On en a gardé la mémoire. Et c'est important de se souvenir, même quand on est enraciné, qu'on a fait un voyage auparavant. C'est pour ne pas oublier justement que rien n'est assuré dans ce monde. L'enracinement n'est jamais absolu. Il faut se souvenir du temps du désert. Et c'est comme ça que cela peut réussir. Alors, intervient toute une série de lois relatives justement à l'assassinat involontaire. Et ça, c'est très intéressant de voir ce qu'on appelle la vengeance du sang. Comment est-ce que la Torah va gérer cette loi antique? En effet, dans la plus haute antiquité, il était évident que lorsque quelqu'un est tué par une personne, alors la famille va venger le sang en tuant celui qui a tué. Que ce soit un assassinat volontaire ou même involontaire. Ça fait partie, on pourrait dire, de la loi du monde sauvage, la loi de la jungle. Or, ce que la Torah a institué, c'est qu'elle a dépossédé l'individu de son droit à la vengeance personnelle et elle a transmis la sanction au tribunal. C'est un passage donc de l'état d'individualité qui est le propre de la société non organisée à la société organisée dans laquelle il y a un pouvoir, un roi, en tout cas un pouvoir politique quel qu'il soit, qui lui va prendre sur lui de venger la personne qui a été tuée. Si c'est un assassinat volontaire, alors il y aura la peine de mort. Si c'est un assassinat involontaire, il faut quand même prendre la responsabilité de son acte. Or, si par négligence, on a fait perdre la vie à un être humain, alors il faut s'exiler. Parce que c'est l'excès d'enracinement qui a amené l'excès de violence. Et donc, c'est quand on s'exile dans une ville de refuge que l'on peut rétablir son identité humaine. La ville de refuge est habitée donc par les membres de la tribu, mais également par des lévites qui enseignent la Torah et par des assassins involontaires qui sont venus se réparer. Et c'est une institution assez extraordinaire qui permet justement de rétablir la pleine stature de la personne qui a entraîné la mort de son prochain. On ne peut pas rester indifférent, même quand l'assassinat s'est fait par négligence. Et puis, la Torah finit par un règlement, un des derniers règlements du partage de la terre d'Israël, qui est une conséquence de ce qui s'est passé il y a déjà deux parachotes avec les filles de Tselophrad. Les filles de Tselophrad ont exigé de recevoir l'héritage de leur père en Eretz Israël, alors que d'habitude, l'héritage ne se transmet que par les hommes et pas par les femmes. Mais comme Tselophrad n'avait que des filles, alors c'est elles qui vont hériter de son territoire en Eretz Israël. Alors, tollé dans la tribu de Ménaché, qui disent « Oui, mais si elles vont se marier avec des membres d'une autre tribu, alors notre territoire va être réduit. » Alors, c'est là qu'intervient une nouvelle mitzvah qui n'a eu lieu qu'une seule génération, c'est que quand quelqu'un est hérité par ses filles, elles doivent se marier avec des membres de leur tribu, afin que le territoire de la tribu ne soit pas réduit à cause de ce mariage. C'était très important à l'époque où, lors de la conquête, chaque tribu devait, avec peu de monde, prendre de grands territoires. Et puis après, cette loi est devenue caduque une fois la conquête d'Eretz Israël achevée. Ce qui est important de se souvenir, c'est que le livre de Bamidbar, qui est le livre de l'affrontement des dangers du désert, qui traite très longuement de toutes les embûches et de tous les problèmes qui peuvent survenir dans le désert, eh bien, ce livre de Bamidbar s'achève avec l'établissement d'Israël sur sa terre et également la mention de la mitzvah qui est de prendre possession de la terre d'Israël. Cette mitzvah qui a été accomplie en 1948 lorsque l'État d'Israël a été fondé, a son origine dans le texte de notre parasha.